Bien, je vous invite à ouvrir à nouveau la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8. Et comme on a lu tout à l'heure le chapitre en entier, on va simplement relire les versets que nous allons considérer ce matin, donc les versets 28 à 30. Romains, chapitre 8, les versets 28 à 30. Voici la parole de Dieu. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et jusque-là, la parole de Dieu. Donc après notre coupure pendant les vacances, on revient sur l'étude de cette lettre aux Romains. Et donc nous allons considérer cette dernière partie de ce chapitre 8. Si on faisait un sondage dans les différentes églises, beaucoup de chrétiens diraient que le verset 28 fait partie de leur verset préféré. Ce verset a été une grande aide pour beaucoup. Mais on ne doit pas oublier que ce verset n'est pas arrivé seul. Il n'est pas arrivé seul comme un prospectus dans la boîte aux lettres. Mais il est arrivé dans le cadre de cette lettre. Il a été écrit dans le cadre de ce merveilleux chapitre 8 que nous avons lu tout à l'heure. Et Paul, dans ce chapitre, parle de l'assurance que le chrétien peut connaître. Il a commencé, rappelez-vous, au verset 1er de ce chapitre, par souligner qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il va arriver à la fin de ce chapitre, au verset 39, à cette conclusion, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais en écrivant cela, Paul n'est pas quelqu'un qui fuit la réalité. Ce n'est pas un optimiste incorrigible qui, quelle que soit la situation, quelle que soit les difficultés, ne cesse d'avoir un sourire publicitaire sur son visage et de dire « tout ira bien à la fin ». Parce que Paul sait que tout n'ira pas bien pour tout le monde à la fin. Et il le souligne même dans ce qu'il écrit ici. Paul a construit son argument. Si vous relisez, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la relecture tout à l'heure, mais c'est un passage qui est rempli de ces petites conjonctures de coordination, je crois qu'on les appelle. Mais, et, donc, et Paul argumente dans tout ce passage, et il dit essentiellement deux choses. La première, c'est que le chrétien peut avoir l'assurance du salut à cause de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous sur la croix, à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Notre péché a été condamné en Christ. Christ a pris sur lui le péché de son peuple et le prix a été payé. Il a payé le prix en donnant sa vie en rançon. Et Dieu est juste et il ne va pas demander le paiement deux fois pour la même chose. Si Christ a payé le prix, Dieu ne nous demandera pas à nous de payer le prix, si Christ a payé le prix pour nous. C'est pour ça que Paul peut dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que Christ a été condamné à notre place. C'est la première chose. Le chrétien peut donc avoir l'assurance du salut à cause de l'œuvre de Christ pour nous. Mais la deuxième chose, c'est que le chrétien peut avoir l'assurance du salut à cause de ce que Christ fait en nous par l'Esprit Saint. À cause de ce que l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ fait en nous par son Esprit Saint. L'Esprit vient nous délivrer, nous délivrer de l'esclavage du péché, nous délivrer de l'influence du péché. L'Esprit nous fait savoir que nous ne vivons plus dans le royaume de la chair, mais que nous avons été transférés dans le royaume de l'Esprit. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Et l'Esprit vient en aide à notre faiblesse. L'Esprit même nous aide même dans la prière quand nous ne savons pas pourquoi et comment prier. Et l'Esprit intercède pour nous et son intercession est en parfaite conformité avec la volonté de Dieu le Père. Le chrétien peut donc avoir l'assurance de son salut à cause de l'œuvre de Christ pour nous et à cause de son œuvre en nous par l'Esprit Saint. Et Paul maintenant arrive au sommet, si on peut dire. Nous savons, dit-il, quelque chose au sujet de ceux qui aiment Dieu. Mais que savons-nous? Et on va souligner cela, on va souligner trois points. Tout d'abord, nous savons l'activité souveraine de Dieu. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Paul parle ici de la providence de Dieu dans nos vies et cette providence n'a aucune limite. Il n'y a rien qui puisse surprendre Dieu. Il n'y a rien qui puisse passer en dehors de sa surintendance souveraine. Dieu dirige, il contrôle absolument toutes choses. Rien ne peut arriver qui pourrait modifier ou détruire le dessein éternel de Dieu. Ces desseins que Dieu a pour son peuple. Dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 11, Paul dit que Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et pour Paul, la preuve de tout cela, que Dieu fait concourir même les pires choses pour le bien de ceux qu'il aime, la preuve se voit dans la vie et dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc, qui a voyagé avec l'apôtre Paul, et nous l'avons vu mercredi soir, l'arrivée de Luc dans l'équipe qui accompagnait Paul, Luc rapporte que c'est exactement ce que Pierre a proclamé le jour de la Pentecôte. En acte 2, verset 23, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, il dit ceci, « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Livré selon le dessein de Dieu. Vous voyez ce que Paul dit, que Pierre dit à la Pentecôte, si la chose la plus terrible, la plus grande tragédie se passe, c'est toujours sous la surintendance de Dieu. C'est bien entendu 100% l'action des impies qui ont mis à mort le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi 100% la stratégie divine qui se déroule à travers la mise à mort par les impies. Et c'est pour le salut du peuple. C'est pour le bien du peuple que Dieu a choisi depuis toujours. Et ça, c'est un encouragement pour nous. C'est une raison de voir notre sécurité en ce que Dieu fait en Christ. Quoi que ce soit qui nous arrive, on peut voir la main de Dieu derrière cela. Et même les choses difficiles, des collègues ou des amis ou des voisins qui nous méprisent ou qui cherchent à nous humilier parce que nous sommes chrétiens, cela nous pousse à revenir à Dieu, à trouver notre refuge en disant « Seigneur, je sais que c'est toi qui permets cela et tu le veux pour mon bien. Peut-être que tu veux que je m'approche et que je me cache encore plus en toi. » Ça, c'est l'affirmation universelle. Il n'y a pas de limite à l'activité souveraine de Dieu. Il fait concourir toutes choses à notre bien, même si nous ne le comprenons pas toujours. On peut prendre l'image d'une montre, pas d'une montre à quartz, une montre moderne où on ne voit rien, c'est tout électronique, on ne voit pas ce qui se passe, mais une de ces anciennes montres où dans le boîtier vous aviez le mouvement. Et ce mouvement était fait de petites roues dentées, plus ou moins grandes. Et ce qui est étonnant dans ce mouvement, c'est que certaines de ces petites roues vont dans le sens opposé. Pourtant, les aiguilles, elles vont toujours dans le bon sens. Et si un maître horloger peut faire cela, alors le Créateur du ciel et de la terre peut prendre les roues de la vie qui tournent dans toutes les directions possibles et il peut les amener à accomplir son dessein afin que tout se passe en temps et en heure, comme il l'a prévu, au bon moment, pour son peuple, pour le bien de son peuple. Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de qui ? On a dit, il n'y a pas de limite dans la puissance de Dieu pour faire concourir toutes choses, mais pour le bien de qui ? Paul ne dit pas qu'à la fin, tout ira bien pour tout le monde, parce qu'il sait que tout n'ira pas bien pour tout le monde. Dieu fait concourir toutes choses, dit Paul, pour le bien de ceux qu'il aime. Mais qui sont-ils ? Il le dit, ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul ne dit pas que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien et qu'il suffit de décider ce qui est notre bien. Parce qu'on ne sait pas ce qui est bien pour nous. Les jeunes, parfois, vont dire à leurs parents, « Moi, je veux ceci parce que ça sera pour mon bien. Et ça sera bien pour moi. » Et les parents vont répondre, « Mais tu ne sais pas ce qui est bien pour toi. Tu n'as pas assez d'expérience. » Mais qu'est-ce que l'expérience ? Une personne de 50 ans a 50 ans d'expérience. Mais elle n'a que 50 ans d'expérience de sa propre vie, pas de la vie des autres. On se connaît déjà nous-mêmes, on se connaît à peine. Notre expérience est limitée. Dieu sait mieux que nous ce qui sera pour notre bien. Et c'est lui qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Voilà le premier point. Nous savons l'activité souveraine de Dieu. Deuxième point, nous savons la destinée finale du croyant. Si Dieu fait concourir toutes choses au bon moment, au bon endroit, dans la bonne vie, dans quel but est-ce qu'il le fait ? Paul l'explique au verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Dieu, le Père, est en train de créer une famille autour de son Fils Jésus-Christ. Et son but est de nous rendre semblables à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il a déjà parlé de cela, et on l'a lu dans ce chapitre 8, quand il parlait d'être ses enfants, que nous avons l'Esprit qui nous pousse à appeler Dieu notre Père, Abba, Père, que nous sommes devenus ses héritiers, les co-héritiers de Christ. Et maintenant, il souligne que tout cela va mener à cette glorieuse destinée où nous serons semblables à l'image de son Fils. Et ce sera évident aux yeux de tous que Jésus-Christ est notre grand frère. Derrière tout cela, il y a bien entendu les luttes, il y a les souffrances, il y a les difficultés, il y a l'incompréhension que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a connue pendant son ministère sur terre. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et il a répondu à ces choses avec l'assurance que tout était sous le contrôle de son Père. Que Dieu dirigeait, que Dieu, son Père, dirigeait absolument toutes choses. Et il s'en remettait à son Père. Et c'est ce qui restera de nos vies, ce qui sera à l'image de Christ. Et Dieu nous moule par toutes sortes d'expériences pour qu'à la fin, il voit en nous l'image de son Fils Jésus-Christ. Les expériences, elles sont personnelles, elles sont propres à chacun d'entre nous. On ne passe pas tous par les mêmes expériences. Mais Dieu nous fait passer, chacun individuellement, par toutes sortes d'expériences, dans le but de nous donner ce même air de famille, semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et c'est Paul précise que c'est pour cela que Dieu nous a connus d'avance. Quand Paul utilise ce langage, il ne veut pas dire que Dieu a vu d'avance ce que nous allions faire. Non, Dieu nous a connus depuis toute éternité, avant même la création du monde. Et il nous destine à l'éternité avec lui. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et quand Paul pense au retour du Seigneur Jésus-Christ, il écrit en Philippiens 3, verset 21, que le Seigneur Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pour ça qu'il a écrit dans ce même chapitre 8 de Romains, verset 19, que la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. La création, elle est, pour ainsi dire, sur la pointe des pieds. Elle guette l'horizon. Elle guette ce qui arrive à la fin de l'histoire. Elle attend la révélation des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui sont libres, qui jouissent de la gloire d'avoir été transformés à l'image de Jésus-Christ. Mais Dieu a déjà commencé cette œuvre dans la vie de ses enfants. Prenons une autre image. Quand je suis devant un bloc de granit, je vois un bloc de granit. Quand un sculpteur est devant un bloc de granit, il voit ce qui va ressortir de ce bloc de granit. Il voit ce qu'il va enlever pour tailler et faire apparaître cette merveilleuse sculpture. Et c'est ce que Dieu fait. Il taille, il enlève ce qu'il ne veut pas garder. Et pas seulement sur le plan individuel, non, il voit toute la famille des frères du Seigneur Jésus-Christ, des sœurs du Seigneur Jésus-Christ. Il taille, et parfois quand il taille un frère ou une sœur, le burin doit nous toucher aussi. Parce qu'il nous façonne pour nous conformer à l'image de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, dit Paul, l'activité souveraine de Dieu. Nous savons la destinée finale du croyant. Mais comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Troisième point, nous savons l'œuvre présente de Dieu. Et il y a une œuvre à quatre dimensions. Il y a une dimension tout d'abord enracinée dans l'éternité passée. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance. On abordera la question de la prédestination quand on arrivera au chapitre 9. Mais simplement dire ceci, certaines personnes vont nous dire « Vous croyez à la prédestination ?» Si on ne croit pas à la prédestination, alors on doit jeter toute la parole de Dieu, on doit jeter toute la Bible à la poubelle. Parce que la Bible est remplie de prédestination. Et Paul exprime cela même dans cette lettre aux Romains. « Si Dieu, dans sa grâce souveraine, ne m'avait pas choisi avant l'éternité, ne m'avait pas attiré à lui, moi je n'aurais jamais fait le premier pas. Moi je n'aurais jamais fait le premier pas pour aller à lui. » Et tout croyant sait cela. Tout croyant prie dans ce sens. Un croyant, on n'entend pas un croyant demander, Seigneur, laisse-les qu'ils se débrouillent pour venir à toi. Non, quand il prie pour le salut de ceux qui lui sont chers, il va dire, Seigneur, dans ta grâce, révèle-toi, attire-les à toi, donne-leur la vie afin qu'ils vivent pour toi. Dieu, dans l'éternité passée, a choisi un peuple pour les amener à la gloire. Et ce qui a commencé dans l'éternité passée commence ensuite dans le cœur. Au verset 30, ceux qu'il a prédestinés, Il les a aussi appelés. Qu'est-ce que cela veut dire? Rappelez-vous encore une autre image, quand vous étiez plus jeune, les parents, le père ou la mère, appelaient le matin en disant « Les enfants, c'est l'heure de se lever ». Et au début, on pensait que ça faisait partie du rêve. Puis on réalisait que non, c'était un nouveau jour qui venait de se lever, effectivement. Il fallait descendre ou aller manger. Et c'est ce qui se passe, c'est comme avec Samuel, qui entend la voix de Dieu et qui ne sait pas d'où vient l'appel. Et pour beaucoup, c'est notre expérience. On ne sait pas ce qui se passe dans notre vie. Et puis on commence à réaliser que Dieu nous a donné la vie en Christ. Il nous a ressuscités spirituellement. Nous étions spirituellement morts et Dieu nous a donné la vie. Dieu nous a appelés à lui. Nous entendons sa voix et nous venons. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Il les a déclarés justes. Il les reconnaît comme étant justes devant lui. Nous pouvons nous tenir devant le trône de Dieu, sachant qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de possibilité de condamnation. Parce que la condamnation a été déversée sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons dire à notre propre conscience, ma conscience, tais-toi. Parce que le sang de Christ a été versé pour moi. Nous pouvons dire à l'accusateur, nous pouvons dire à Satan lui-même, lorsqu'il nous accuse, lorsqu'il nous rappelle tous nos manquements, lorsqu'il nous rappelle nos péchés, nous pouvons lui dire, Christ est mort pour moi. Christ est mort pour moi. Et Paul ensuite parle de la glorification. Nous avons vu dans notre étude de Romains que Paul a parlé du désastre causé par la chute d'Adam. L'homme a échangé la gloire de Dieu pour des mensonges au sujet de Dieu. L'homme a péché, l'homme est privé de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais en Christ, justifié, déclaré, reconnu juste, nous nous réjouissons de l'espérance de la gloire de Dieu. Et Paul dit que cette gloire brillera sur nous, nous transformera, nous rendra semblables à l'image de Jésus-Christ, afin que nous jouissions de la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Il y a au départ une ruine, nous étions morts dans nos péchés. Il y a une restauration qui se vient par la foi en Jésus-Christ, et il y aura une conclusion. C'est le fondement de la grâce. Avant même que je sois né, Dieu a décidé de m'aimer. Dieu a décidé d'aimer un peuple. Il a choisi un peuple. Et Paul écrit tout cela. Voyez-vous, au passé, c'est comme si tout était déjà fait. Même la gloire, même la glorification, il les a glorifiés. Et voilà l'assurance du croyant. Voilà l'assurance du croyant. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit d'une autre manière en s'adressant en Jean chapitre 10 et versets 27 à 29. Il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés ?» Le Père me les a donnés. Le Père est plus grand que tous, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Les croyants qui sont déjà dans la gloire sont peut-être plus heureux, mais ils ne sont pas plus en sécurité que les croyants ici-bas. Celui qui est en Christ ne pourra jamais être séparé de Christ. Les racines de son salut remontent jusque dans l'éternité passée. Et c'est pour cela que nous pouvons avoir cette assurance que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de son peuple. Dieu est souverain sur toutes choses. Dieu a commencé une œuvre dans l'éternité passée et il la continue au présent afin d'amener ce peuple dans sa présence, dans la gloire éternelle et que ce peuple soit transformé à l'image de son Fils Jésus-Christ. Tout cela, bien entendu, est par grâce. Tout cela est par la foi en Jésus-Christ. Tout cela est une description de ce merveilleux salut que Dieu nous donne en Christ. Nous savons, dit Paul, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel merveilleux salut, quel merveilleux sauveur nous avons en Christ. Quel privilège de le connaître et de pouvoir nous reposer en lui. Quel repos d'être à Christ et de savoir qu'en lui, nous avons toutes choses. Que Dieu nous aide à saisir ces réalités, qu'il nous aide à méditer sur ces réalités, qu'il nous donne cette assurance que rien, rien, si nous appartenons, si nous sommes à Christ, que rien de ce qui nous arrive n'est par accident, mais que Dieu fait concourir absolument toutes choses pour le bien de son peuple, afin de nous transformer à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à saisir ces réalités, qu'il nous aide aussi à nous réjouir de cette grâce qu'il nous accorde en Christ. Levons les yeux vers lui, levons les yeux et attendons-nous à lui pour toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.